Le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barbare, enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y'a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en ombre à guetter ma rechute. Nous n'étions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes. Au milieu des décombres et des bêtes en rute. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré.
Bonsoir.
Sébastien, avec un invité aujourd'hui.
Oui, dans même pas quelques minutes, Stéphane Anquetil, donc un auteur entre autres de romans interactifs et de jeux d'enquête.
Voilà, qui vient nous parler de sa nouvelle série, les Crime Books, aux éditions 404. Pierre-Marie, ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu.
Oh bah c'est parce que ça fait longtemps que tu n'es pas venu avec moi, mais moi j'étais là en juillet, alors c'est que vrai. Toi t'étais parti,
et oui.
Lâcheur.
Ok, t'as eu le temps de lire des livres.
J'ai eu le temps de lire des livres, mais je ne vais en parler que d'un qui m'a laissé sur ma faim, mais que je le conseille
même. C'est nouveau ça.
Et c'est un Star Wars, petit plaisir coupable des vacances.
Et toi, Karine?
Elle n'a pas lu. J'ai lu, mais pas que de l'imaginaire.
Tu vas nous faire une petite chronique sur la rentrée littéraire, c'est ça hein?
Exactement.
Ça marche.
Je vais vous présenter certains titres.
Super. Allez, le temps qu'on appelle Stéphane au téléphone, on va s'écouter son premier choix musical. C'est assez court, c'est le générique d'une série télé. On va voir si vous connaissez. Ouais. Que vous avez reconnu ce générique?
Ah, c'était Miami Vice.
Non, c'était plus smooth. C'était Bosch. C'est l'inspecteur Harry Bosch, je crois, à mon avis. C'est tiré des romans de Michael Connelly. Stéphane pourra nous confirmer ça. Est-ce qu'on est en ligne avec lui, là? Où est-il?
Il a peut-être pas eu le temps. Ah, je vois que ça sonne.
Ok, on essaye ça, crac. Allô, allô.
Le générique est court.
Oui, c'est Stéphane Anquetil, pareil.
Mais voilà, super. Bonsoir Stéphane, quel Coucou. Timing.
Bonsoir, ça va bien, vous m'entendez bien?
Ouais, ça va, on t'entend bien.
Alors, on va faire un test, super. Mais normalement, ouais, la voix, je l'entends un peu...
Je vais continuer de parler pour le test, alors je teste le test.
Je peux pas te mettre plus fort, de toute façon.
Tu peux pas mettre plus fort?
Bah, je suis sur un fixe, il n'y a pas de réglage. Hein. Alors, je peux peut-être mettre peut-être plus devant la bouche, comme ça, j'en sais rien.
Ça change pas grand-chose.
Allô, allô.
Ouais.
Non, bon, je vais faire.
Ce générique de série qu'on vient d'écouter, c'était bien tiré des romans de Michael Connelly, non?
Ouais, c'est ça, c'est la série Bosch sur Amazon Prime, ouais.
Tout à fait.
Alors Stéphane, ouais,
ça va nous mettre dans l'ambiance des crime books, alors j'espère.
Ah, tout à fait, ouais.
Ouais, c'est une série que j'aime beaucoup, ouais, en plus.
Donc, bah, Stéphane, je suis très heureux de te compter parmi nous donc, pour nous parler d'une nouvelle collection. Donc, on l'a cité avec Romain en début d'émission, chez 404, les Crime Books, dont tu es l'auteur. Alors, je rappelle à nos auditeurs de Radio G que tu es connu, notamment pour un escape book, toujours à 404, d'enquête primée, Le piège de Moriarty. Alors, tout d'abord, comment est née la collection Crime Book ?
Alors c'est une collection qu'en fait pour une fois j'ai... donc c'est pas une demande de 404, c'est moi qui ai pitché la collection à 404, donc pour nos lecteurs en fait, donc on a dans l'édition, on a soit l'éditeur qui a des collections et qui, comme les skatebooks qui viennent d'un auteur et puis on continue la collection, on prend des auteurs pour continuer la collection et en sortir régulièrement, c'est ce qui m'est arrivé, soit un auteur vient avec une idée, un concept, et l'idée c'est souvent de justement de faire plutôt que faire un livre et d'oublier, d'essayer de faire une collection, une nouvelle collection. Alors chez 404, ce qui s'est passé, c'est que les escape books, c'est fini. Donc il y avait un slot de libre, une opportunité de faire autre chose. Donc j'aurais proposé ces crime books, c'est-à-dire d'aller sur le domaine un petit peu du policier, tout en ayant une dimension un peu geek, comme c'est le label 404 de la maison d'édition, donc c'est un peu leur esprit, et avec toujours cette idée un petit peu de livre-objet, de très beaux livre-objet, de livre-jeu, qui est un petit peu aussi leur identité à eux. Voilà.
Ok. Et la collection, dis-moi, démarre avec deux titres, sortis tous deux, 25 août, Weekend Fatal et Meurtre à Hollywood. Pourquoi ce choix éditorial ?
Alors, c'est un choix assez classique de la part de l'éditeur, c'est-à-dire qu'on commence souvent avec des contextes et des thèmes très différents pour tester un petit peu, de voir ce qui peut marcher, ce que l'électorat va préférer. Donc, effectivement, Weekend Fatal, on va le détailler, mais c'est très contemporain, hein. Ça se passe même de nos jours, en 2022, je crois, même au mois de mai, en fait, j'avais écrit en essayant de faire coïncider les dates avec la sortie du livre qui était prévue le 25 mai, mais malheureusement, les problèmes d'impression et de papier ont fait que ça a été repoussé, mais c'était l'idée. Et puis à côté de ça, bah, Meurtre à Hollywood, qui est effectivement beaucoup plus dans l'esprit cold case, affaire non classée, très très vieille, dans un contexte américain, hollywoodien, donc rien à voir. Alors que Weekend Fatal se passe en France. Donc l'idée, c'est d'apporter en fait deux contextes très différents, faire un petit peu aussi des choses un petit peu différentes. En fait, l'esprit de la collection, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer après qu'on ait des enquêtes avec un journal intime, une adolescente qui essaye d'enquêter sur quelque chose, des choses comme ça, même du surnaturel, etc., etc. Donc l'éditeur, comme ça, il va pouvoir tester un petit peu le marché, voir lequel des deux fonctionne le mieux. Et puis ben, on a déjà prévu les prochains qui seront pareils, avec un truc plutôt dans l'esprit ancien, classique, et puis un autre toujours contemporain.
Voilà. Ok. Donc là, on va en venir à Weekend Fatal, le plus contemporain donc des deux. Comment t'es venue l'idée de cette enquête ?
Eh bien, Weekend Fatal, ça m'est venu d'un mélange de choses. En fait, j'avais envie de parler un petit peu de ce qui nous était arrivé avec, effectivement, le confinement, etc., l'épidémie de Covid et tout ça, puis la façon dont ça avait affecté un petit peu tout le monde. Alors, c'est vrai qu'en tant que créatif, rester confiné chez soi, on est un petit peu habitué en tant qu'auteur, c'est un peu notre quotidien. Par contre, effectivement, on aime bien quand même sortir, aller en festival, en dédicace, sur des salons, et puis bah, là, c'était complètement terminé. Donc, c'est pas très marrant non plus, ce truc-là. Et puis, en observant un petit peu autour de moi comment les gens avaient réagi, plus d'autres thèmes qui me plaisaient dans Weekend Fatal, notamment le côté murder party, le crime dans le crime, un petit peu cette espèce d'esprit un petit peu amusant qui a déjà été traité hein, par d'autres auteurs, mais ça me plaisait bien. Et puis le monde de l'entreprise que je connais bien aussi, donc ça faisait tout un tas de trucs qui faisaient que je me suis dit ah, ça serait une bonne enquête. Avec beaucoup d'éléments, beaucoup de personnages et la possibilité toujours d'avoir des indices, puisque c'est un peu la marque de fabrique, hein, la marque de fabrique de cette collection Crime Book, c'est d'avoir des indices papier, 9 indices papier en plus du livre dans la maquette. Donc ça, il fallait quand même qu'il y ait pareil une abondance de documents. Le monde de l'entreprise, pour ça, c'est assez sympa.
Ok. Et cher Stéphane, quelle passerelle ou pas y a-t-il entre le Crime Book et ton jeu de cartes d'enquête, le Crime Zoom, auquel on avait joué avec Romain et Pierre-Marie, qu'on avait commenté d'ailleurs, No Fours, sur la Radio G, et qui est né en 2019, le Crime Zoom?
Alors, je dirais que c'est un petit peu les mêmes constructions. On a des fausses pistes, on a des personnages, on a l'enquête, c'est toujours des témoignages hein, qui sont donc souvent assez psychologiques. Sur un Crime Zone, on est très limité par le texte. On a malheureusement que 55 cartes. Hein, pour les auditeurs, vous imaginez une carte de poker, bah, c'est ça. Donc effectivement, on peut amener du visuel en plus, par contre, de l'illustration, mais on va être limité par le texte. Et le Crime Book, c'était bah, un projet de livre. C'est mon septième livre chez 404, 7e et 8e, hein, les deux. Et en fait, ça a été l'occasion d'aller sur quelque chose de plus long, de pouvoir développer les personnages et les intrigues sur plus de 200 pages. Et ça, c'était totalement nouveau pour moi.
Ok. Et donc, le Crime Zoom, là, qu'a pris en main donc, Romain, il est bâti sur des séries d'auditions. Donc, et j'ai trouvé ça très original. Donc, on doit enquêter sur l'homicide de la personne d'Amélie Lafont, qui est PDG de Biodiag, une start-up médicale. Et en cela, donc, je trouve que c'est un livre-jeu innovant, Romain, Weekend Fatal, parce qu'on n'a pas de renvoi comme dans un livre-jeu classique, mais là, des auditions, mais qu'on doit donc faire confronter, par exemple, une telle avec une autre, pour savoir donc ce qui s'est passé pendant donc ce séminaire. Par exemple, on a une lettre de chantage à un moment donné, donc qui est déposée au bureau même de l'entreprise, bien avant donc l'assassinat donc d'Amélie Lafont. Donc c'était le 3 mai pour cette lettre de chantage. Et à partir de là, il faut savoir donc de qui est venue cette lettre de chantage, donc qui menace en fin de compte la personne donc d'Amélie Lafont, parce que elle risque, comme elle va donc vendre son entreprise à des Américains, de licencier des personnes de son entreprise. Et donc, il va falloir déterminer, par exemple, qui donc de l'entreprise donc cherche à menacer Amélie Lafont pour garder son poste. Et parlant donc de l'entreprise, de quelles inspirations, dis-moi Stéphane, te vient justement cette satire donc de ce petit monde de l'entreprise vraiment pas tout rose?
Ah bah c'est un monde que je connais bien, hein, que j'ai fréquenté pendant toute ma carrière avant d'être auteur, donc avant jusqu'à 2015. Et donc, moi j'ai une carrière d'infographiste, j'ai monté ma propre boîte et bah évidemment t'es au contact en tant que prestataire, j'étais au contact de plein d'entreprises. Et en plus de ça, j'ai un ami avec qui j'avais travaillé sur dans ma ville, là sur Toulon, qui lui-même vient d'une entreprise médicale comme ça. Hein, et il m'a donné plein d'idées, m'a expliqué comment ça fonctionnait, quels étaient les postes et les métiers de ce genre d'entreprise. Et donc ça a donné une abondance d'anecdotes très facilement qui m'a évidemment beaucoup inspiré. Ensuite moi je voulais aussi surtout qu'il y ait un panel de suspects, et c'est vrai que le ressentiment à plusieurs niveaux dans l'entreprise, entre les relations amoureuses qui peuvent se tisser, les liens de subordonnés, les gens qui peuvent se sentir un petit peu sous-évalués, méprisés au sein de l'entreprise, dont on méconnaît le poste où ils travaillent, tout ça c'est un terreau extraordinaire pour du ressentiment pour des mobiles de crime.
Ok. Et peux-tu nous en dire plus maintenant sur la mécanique de jeu que j'ai, qu'est-ce qui s'est en fait apporté par les auditions?
Alors, l'idée d'avoir des auditions, des interrogatoires, c'est pas nouveau. On a ça dans les crime books, hein, les crime dossiers, avant les crime books, dans les crime dossiers de Denis Wesley. Ça date des années 30. Vous les pouvez les trouver. Ça a été réédité jusque dans les années 80 chez Ramsey. On les trouve chez les bouquinistes. Et déjà, à l'époque, on avait cette espèce de reporting d'enquête, quoi, de feuilles dactylographiées, de télégrammes, d'échanges entre le détective et sa hiérarchie, etc. Et là, je me suis dit, c'est super, mais on va faire ça avec des auditions, évidemment, des auditions auprès des gendarmes ou des policiers, etc. Et évidemment, tout d'un coup, moi qui viens du monde du jeu, du livre-jeu interactif, effectivement, il fallait que tout s'enchaîne sur une logique de livre, plutôt de roman, qu'on puisse aussi lire ça si on est juste amateur de policier. Donc tout d'un coup, il y avait une linéarité qui était imposée, une page après l'autre. Ça m'a au début pas mal déstabilisé. Je me suis dit, bah, je vais faire des auditions, plus d'autres auditions qui vont revenir sur ce qu'a déclaré la personne la première fois, quand ça se contredit avec ce qu'on apprend entre-temps, soit par le biais des indices, des investigations des gendarmes ou d'autres personnes qui disent, qui contredisent, qui apportent de nouveaux éléments. Donc c'est comme ça que c'est né, dans une logique de pouvoir déclarer quelque chose, emmener le lecteur vers une piste et puis pouvoir revenir là-dessus, annuler ou renforcer cette piste, etc. Toute la dynamique en fait de l'enquête est apportée par ce petit jeu des auditions et des contredictions.
D'accord, cher voilà. Stéphane. Et en quelques mots, pardon, peux-tu nous dire quel rôle a l'enveloppe d'indices scotchée en quatrième de dos de couverture?
Alors, ces 9 indices, en fait, c'est vrai qu'on pourrait très bien les mettre dans le bouquin qui est déjà abondamment illustré. Et en fait, le but, c'était de se dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va déclencher la révélation ? Qu'est-ce qui, à quel moment ces indices vont avoir quelque chose d'intéressant ? Ben, en fait, il faut le savoir, dans toute la collection Crime Book, c'est la preuve, ce qui va déclencher, en fait, votre « Ah, mais je sais qui a fait le coup », c'est quelque chose qui est dans les indices. Donc, les indices sont très importants à mettre en rapport avec l'enquête pour découvrir qui est le coupable.
Ok, et qu'apporte l'ajout d'avoir dans les deux livres donc des commentaires, des couches narratives supplémentaires pour le coup, comme les notes en rouge du détective privé, celles en bleu de sa cliente, qui accompagnent les textes des auditions dans Weekend Fatal.
Voilà, alors ça c'est quelque chose que j'ai rajouté, dont je me suis inspiré dans d'autres livres comme Cathy Book chez Bayard, ou un livre très très beau qui s'appelle un livre objet presque chez Robert Laffont, qui s'appelle S de J.J. Abrams et Dundorst. Et donc on avait déjà comme ça des notes par-dessus de deux étudiants, par-dessus un livre de bibliothèque qui s'échangeait. Je trouvais ça génial d'avoir une narration en plus, une narration par-dessus une narration. Ça apporte de la vie, ça évite le côté peut-être un peu ennuyeux du document administratif, etc. Et ça permet aussi de rebondir, d'avoir des comme ça des commentaires de gens qui permettent aussi au lecteur de se raccrocher à quelque chose s'il est un petit peu perdu. Donc ça amène en plus du ludique et un petit peu de l'aide aussi. Voilà.
Ok, cher Stéphane, une sorte d'aide en fait de jeu. Et maintenant, on va passer donc à un nouveau choix musical de ta part. Peux-tu nous détailler un petit peu ça ?
Oui, ça c'est lequel celui-là en fait ? Vous êtes passé le.
C'est Miles Davis.
Miles Davis.
Ah bah ça c'est un morceau de jazz improvisé qui a été enregistré très très vite sur un film français très connu, un film noir, Ascenseur pour l'échafaud. Voilà, que je vous invite d'écouter. Donc c'est un jazz très très court, c'est culte.
C'est voilà, 101.5 FM. C'est parti. Et on te retrouve tout de suite après pour la suite.
Stéphane, est-ce que tu es toujours avec nous sur le 101.5 ?
Oui. C'était je ne suis pas décapité comme le... le suspect de ce film magnifique de Louis Malle.
Ah ouais, je ne me rappelle plus. Hein. Je sais qu'effectivement, il est coincé dans un ascenseur, non?
C'est ça, il s'est coincé dans un ascenseur et ça fout tout en l'air. C'est un film de 1958.
Ouais, ouais.
C'est marquant.
Et peut-être ouais, une des premières BO aussi où on associe le jazz sur un film noir, je pense. Ça a pas mal lancé un peu toute...
Alors l'anecdote, c'est qu'en fait Miles Davis a vu les rushs et puis il a dit oh, je veux faire la musique et il l'a enregistré je crois en une journée.
Mmh. Et c'est resté, ça reste un classique du genre.
Alors, on apprend plein de choses ce soir donc sur le 101.5 FM et on va continuer donc à enquêter sur les crime books. Et comment Stéphane ça s'attache donc un crime book à proposer de nouveaux codes de jeu? Tu as commencé à en parler un petit peu avant. Peux-tu nous en dire un peu plus?
Oui, alors donc on a cet aller-retour entre divers documents. On a une première couche de narration avec l'enquête un peu brute, des documents plutôt administratifs, des comptes rendus d'audience, des choses comme ça. Et puis après, on va sur l'autre crime book, celui qui est plus dans l'ambiance de notre musique, là, Meurtre à Hollywood, qui lui se passe en 22. On va avoir plutôt des coupures de presse de l'époque, des choses comme ça, des lettres, des articles de magazines, des rumeurs, des choses beaucoup plus anciennes, comme ce qui se passe en 1922, celui-là. Et donc, on peut faire ses propres recherches sur Internet sur ce cold case, sur celui-là, puisque c'est un vrai cold case. Mm-hmm. C'est pas comme Weekend Fatal qui est une pure invention. Donc, du coup, vous pouvez également aller sur Internet. Il y a des forums spécialisés. Les Américains sont complètement passionnés par ce cas irrésolu, donc sur la mort de Taylor, donc un réalisateur américain. Et donc, c'est pour ça. Et peut-être qu'un jour, on fera aussi, nous, des fausses pages Internet, des choses comme ça. Voilà, on a encore une couche supplémentaire de jeux possibles.
Ok, ok. Et dis-moi, jusqu'où la quête de la vérité est-elle atteignable pour le meilleur des enquêteurs qui soit, rien qu'en parcourant les premières auditions de Weekend Fatal avant d'attaquer les secondes? Parce qu'on a deux parties, en fait.
Vous aimeriez bien le savoir. Alors, ça, la page 106, à peu près, les 100 premières pages, donc ça veut dire qu'on en laisserait un petit peu moins de 200, 75. En fait, non, oui, ça serait assez difficile d'élucider. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on apprend dans la deuxième partie qui permettent de clore des fausses pistes, etc. Et puis, certains indices ne prennent du sens qu'à partir du moment où on a tout lu, quoi. Mais effectivement, c'était un défi de pas faire quelque chose qui est résolvable par accident en lisant que le début. Ça a été un défi à relever.
Ok, cher Stéphane, et donc là je vais en venir un peu plus sur des personnages. Donc c'est Amélie Lafont, donc qui est morte par balle réelle sous le tir d'un de ses collaborateurs, Michel Lemotte, pendant la murder party qui a lieu dans un manoir normand. Et le créateur du jeu, Pierre Yvet, d'ailleurs, ne va pas tout dire au premier coup. Donc on peut pas véritablement tout savoir. Donc jusqu'à la page 106, on peut deviner quand même des choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même en lien avec la Covid-19, ce fameux Pierre Yvet qui est auteur de la Murder Party. Donc, il vend son scénario. On apprend qu'il va vendre son scénario à une des collaboratrices d'Amélie Lafont. Donc déjà, ça nous entraîne sur une piste. Et on se demande même si ce pauvre Michel Lemotte, il n'a pas été manipulé pour tuer sa PDG. Et à partir de là, donc, on a une murder party qui devient un jeu mortel. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans un manoir donc normand. Et tiens-toi bien, Stéphane, mais Romain, il connaît bien le coin.
Ben oui, c'est là que j'ai passé mes vacances. On en parlait en début d'émission. Hein. J'étais notamment du côté de Valognes cet été.
Ouais, c'est près de Valognes. Mais le gîte, enfin, le manoir existe vraiment. Hein. D'ailleurs, je crois que dans l'indice, l'illustrateur a laissé les deux termes. Donc, je crois que c'est Flottementville.
Tout à fait.
Le gîte existe vraiment. Il a un site et tout ça. Alors, je suis pas encore allé en vacances. Moi, j'aimerais bien. Mais effectivement, l'ancrage dans le réel est quelque chose qui me tenait à cœur pour cette enquête. Donc, tant l'entreprise est crédible, même la zone industrielle où elle est à Mondeville, moi je connais aussi, c'est aussi ma région. Je vous rappelle que je suis normand moi-même, j'ai pas le choix.
Ouais,
donc je connais moins bien la région de Valognes, j'y suis déjà passé, mais effectivement je connais assez bien le Cotentin et tout est au plus près de la réalité, ce qui évidemment rend l'immersion encore plus passionnante.
Et cher Stéphane, donc là j'ai évoqué le fait qu'un scénario a été vendu, le scénario de la murder party a été vendu à une des collaboratrices, Ghislaine Decan. Et de fait, comme les secrets intimes donc sont progressivement dévoilés au fil des auditions, cela rend pour moi la chasse aux suspects plus passionnante encore. Est-ce que c'était prévu dans chaque crime book?
Oui, on a un système comme ça, en pelure d'oignon, on découvre progressivement la psyché des personnages, où on découvre tout d'un coup qu'ils ont menti. C'est quelque chose qu'on peut développer comme ça dans ce genre de roman, dans un format long comme le Crime Book, que par exemple je ne peux pas faire dans les petits jeux Crime Zoom, par exemple, où il n'y a pas la place. Donc voilà.
Ok, et alors on a un personnage qui m'a fait bien rire, un personnage des plus typés d'ailleurs, donc je l'ai écarté rapidement de la liste des suspects, qui existe vraiment, Romain, sous forme de 15 fiches à remplir en fin d'ouvrage. Il s'agit de Guy Harel, le jardinier de la propriété où a eu lieu le crime. Alors il fait figure d'huluberlu dans sa défiance du vaccin anti-Covid-19, des ondes 5G, et s'accompagne dans son style n'est pas en reste. Mais d'où vient une telle galerie de personnages truculents?
Oui, bah, déjà je me suis inspiré, une patoise aussi, hein, je me suis inspiré en fait d'une partie de ma famille, hein, on a tous des gens un petit peu comme ça dans sa famille, et puis je voulais aussi avoir une petite note d'humour, donc c'est vrai que les deux personnages, les époux Harel, le jardinier et la femme de ménage, sont assez pittoresques, parce que pour donner une petite respiration d'humour, parce que quand même c'est quand même une histoire un peu sombre et des fois un petit peu triste, donc c'était pour donner une petite respiration amusante.
Et pourquoi tu voulais amener le lecteur dans la piste du complot ?
C'était un sujet qui me tenait à cœur, en fait, tout ce côté des fois un petit peu irrationnel et haineux qu'on peut voir les gens quand ils sont un petit peu effrayés par des choses nouvelles, quand ils ont du mal à s'adapter. Hein. C'est quelque chose qu'on a tous connu, on connaît tous quelqu'un dans notre famille qui a mal vécu cette période et qui est devenu un petit peu difficile. Hein. Il y a des gens qui ont divorcé, il y a des gens qui se sont séparés à cause de ça. Et donc, je voulais aussi, sans tomber dans la caricature au niveau d'autres personnages, montrer à quel point c'était difficile, notamment pour l'entreprise Biodag. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup travaillé, qui sont retrouvés un petit peu en surmenage, d'autres qui ont bien vendu les choses. Enfin, il y a un peu tous les profils, on n'est jamais trop dans la caricature, les personnages sont tous un peu gris, jamais noir et blanc, jamais manichéen.
Alors cher Stéphane, avant de conclure, pourquoi tu privilégiais comme cadre de la Murder Party, donc une pièce d'un manoir, précisément la bibliothèque?
Je crois que pour un écrivain, la bibliothèque est un lieu fascinant. J'avais surtout besoin d'un endroit où cacher l'arme et un livre. Vous savez, un livre dont on enlève les pages, où on découpe les pages, était une cachette assez intéressante pour des indices. C'est un grand, grand classique aussi des murder parties, de se passer dans une bibliothèque, parce que ça fait un endroit dans lequel il y a plein de cachettes, et des cachettes dont on peut donner facilement l'endroit en disant « allez chercher dans tel livre, dans tel rayon ». Voilà.
Et d'ailleurs, ça fait référence peut-être au Crime Zoom Écrivain Mortel, qui se déroule dans un manoir.
Tout à fait, dans lequel il y a aussi une bibliothèque qui arbore les volumes de l'écrivain assassiné, qui collectionne ses propres livres dans toutes les éditions possibles, imaginables. Encore un petit clin d'œil à ce qui nous arrive aussi quand on reçoit nos propres livres par la poste.
Alors, je vais te remercier Stéphane, et signaler aussi à nos auditeurs donc de Radio G qui aura bientôt un nouveau Crime Zoom, Fenêtre sur Crime, qui va sortir. Et pour finir, résume-nous donc les différences de jeu entre Meurtre à Hollywood et Weekend Fatal.
Alors on en a un qui est vraiment cold case, qui est beaucoup plus nébuleux, hein, qui se passe dans les années 1922 sur un cas réel, hein, le meurtre de William Desmond Taylor, donc qui plaira plutôt nostalgique justement des films noirs, un petit peu de l'ambiance d'Hollywood avant même que ça devienne des Paramount, hein, c'était vraiment des tout petits studios, donc c'est vraiment quelque chose de très vieux avec une investigation qui est pas du tout comme les experts, parce que vraiment tout se perd, on est dans la rumeur, on est dans les potins, etc. Et Weekend Fatal, dont on a bien développé, qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuel, donc les deux peuvent trouver leur public.
Ok, et on a une solution donc dans Weekend Fatal, Romain, je te rassure, si tu te creuses les méninges, il y a la solution, ouais. Mais c'est plus sympa de la découvrir
par soi-même. Dans Meurtre à Hollywood, la solution, elle est plus nébuleuse, parce que j'ai pas voulu trancher, comme si toutes les personnes sont réelles, je n'ai pas vraiment accusé quelqu'un. Mais avec les indices, on a quand même une bonne idée de qui ça peut être.
Ok, cher Stéphane, je te remercie beaucoup donc pour ce temps d'interview donc consacré à parler de tes crime books, et j'espère
merci
que ça a donné vraiment envie à nos auditeurs de les ouvrir, parce que c'est vraiment de très beaux livres au prix de 14,95 si je ne m'abuse.
Tout à fait, dispo en librairie depuis le 25 août.
Et cartonné, vraiment des très beaux livres, Romain.
Ouais, des beaux livres objets.
Papier et tout.
Ouais.
Voilà, je te remercie, je te dis à très très vite.
À bientôt.
Merci Stéphane. On enchaîne en musique avec le choix de Sébastien, c'est Marcia Higelin.
Ouais, Marcia Higelin, Prince de Saba, donc c'est un morceau plutôt doux, avant les morceaux un peu plus speed de Pierre-Marie, je pense, et Karine.
Et c'est la famille Higelin alors
Oui, c'est la famille Higelin, petite fille d'Arthur H.
D'accord. Voilà. On s'écoute ça sur le 101.5.
Chaude, autant bâme-toi, c'est mieux que des mots, que les mots d'hier, que les mots de demain, que les mots d'hiver, toujours incertains, et ces mêmes prières dans tes yeux soudain, l'ombre d'un repère, odeur bleu marin. D'argent, une mine fiévreuse, un baiser ardent, une épine furieuse, me pique le cœur, me pique les doigts, larme de douceur, puis un moment de froid, illusion vilaine, oh je suis bien tombée, sous la lune pleine, dans tes bras beauté, prince de Saba, oh, je t'ai tout donné, tu promets le avant de t'effacer.
C'est ça, Igelin dans Imaginaire sur le 101.5, un morceau en live, hein, il me semble, avec une petite chorale et tout.
Acoustique.
Karine, est-ce que tu as besoin de ton générique ou pas pour faire ta chronique?
Oui, pour qu'elle prenne la respiration.
Allez, c'est parti pour le jingle de Karine.
Bling. Non, arrête de mettre la petite.
Si vous vous aimez, c'est à plusieurs en plus. Je vais encore avoir encore plus de mal. Donc,
oui.
La rentrée littéraire. Mmh. Je commence par Bragelonne avec le cycle du Crépuscule, le tome 1. Le
donc, il y a du genre dans la rentrée littéraire. Alors, moi, je croyais que c'était que la littérature blanche.
Non, mais alors, la rentrée littéraire pour l'imaginaire, c'est en octobre. D'accord. Mais il y a des choses qui sortent et qui valent le coup d'être mentionnées. Écoute la petite.
Tac. Bragelonne.
Donc, c'est un titre de Peter V. Brett qui semble être une critique sociétale sur les obligations que l'on peut avoir en fonction de son statut. On suit visiblement deux personnages dont la vie est déjà toute tracée, mais des événements vont les faire changer de perspective. Et une chronique apparaîtra sans doute prochainement.
Rappelle-moi le titre, je ne l'ai pas entendu.
C'est le cycle du crépuscule, si tu ne m'avais pas interrompu.
Donc, tu, en fait, tu nous fais une chronique des trucs qui t'en... qui ont attiré ton œil là.
Voilà, exactement.
D'accord, ok.
Donc chez Albin Michel Imaginaire, on est sur les flibustiers de la mer chimique de Marguerite Imbert, qui semblerait être une comédie dramatique post-apocalyptique.
Ah bah c'est bien, parce que d'habitude c'est souvent un peu triste le post-apo.
Eh oui, mais non.
Toi, t'as pas encore lu Justine Legray, hein, Gueule de truie, c'était pas triste.
Ah bon?
Donc, une folle odyssée sur des mers acides, sous des cieux aveuglants qui ont pris les délicieuses couleurs d'un assortiment de bonbons chimiques, que nous dit la maison d'édition Albin Michel Imaginaire.
Il y aura un petit buvard dans l'enveloppe derrière avec le livre.
Ah, cool.
Donc, je poursuis avec Les moutons électriques fumés de Nicolas Texier, avec des illustrations de Melker Ascaride.
Bien.
Dont on avait chroniqué Eurydice déchaînée. Mmh. Et c'est toujours une bichronie en noir et blanc.
Bon, en même temps, Melchior, c'est toujours lui qui les fait. Il les fait quasiment toutes, d'ailleurs, chez les boutons électriques.
Les couvertures, ouais. Oui, mais écrire à l'intérieur...
Ah, mais là, c'est la couverture.
Là, c'est l'illustration.
Il fait d'accord.
Les illustrations seulement.
Mais il fait les illustrations intérieures aussi.
Oui, ouais. Tout à fait.
Donc c'est presque comme un peu... roman graphique, on pourrait appeler ça. Roman graphique, graphique.
Donc ça va être visiblement une enquête hallucinée dans un Paris hanté par les créatures fantastiques, la guerre et le désespoir. Un roman très noir.
On savait qu'il y avait une comédie au milieu.
Voilà. C'est même pas fait exprès. Donc chez La Talente, on a Composite d'Olivier Paquet, qui est un roman politique-fiction qui tire sa force émotionnelle de la complexité des relations entre parents et enfants. Donc à croire que si les machines voulaient notre bien, elles commenceraient par nous libérer de nos familles. Un roman qui semble interroger sur l'intelligence artificielle.
Je te coupe, il faut pas oublier que ce roman-là, il est en lice pour le prix Utopial, si je me souviens bien, aux côtés de Les Oubliés de Lama de Florian Soulas, de La Nuit du Fauve de Luc Azot, et j'ai perdu.
Il y a le nouveau Morgane Caussarieux, dont je me rappelle pas du titre. Et puis un autre, il y en a cinq.
Bah du coup, celui-là.
Ok.
Donc il y a également un spoum. Si j'écorche pas.
C'est quoi un spoum?
Tu l'as
écrit ça comment?
Ah, c'est un psaume.
Voilà. Ah oui, d'accord.
Oh, non mais il y a une petite légère dyslexie.
T'as pas été beaucoup au caté, toi.
Donc, pour les recyclés sauvages de Vicky Chambers, une chronique sera à découvrir sur notre site prochainement, écrite par Manon Tardy.
Oui, elle est dithyrambique sur ce roman-là, mais en même temps, Vicky Chambers est un incontournable de la science-fiction, un peu hard science-fiction d'ailleurs.
Donc on a aussi Les jumeaux du paradoxe de Joshua Chaplinsky. Récit tour à tour émouvant, humoristique ou terrifiant d'une quête de sens et de vérité dans une famille dysfonctionnelle comme les autres.
Si j'avais besoin d'avis sur les familles dysfonctionnelles, ils pouvaient me demander conseil, hein, y a pas de soucis.
Tu vas commenter à chaque fois en fait.
Oui.
Donc pour un screener où on a L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wellenstein, qui est un roman choral.
Wellenstein. Il faudra peut-être qu'on diffuse son interview d'ailleurs là, qu'on a fait à la bibliothèque Toussaint. Je l'ai réécouté aujourd'hui.
Et bien, en plus, elle disait des choses intéressantes.
Ouais, je pense qu'on va vous passer ça dans une de nos prochaines émissions. Continue, Karine.
Ça peut valoir le coup, effectivement. Donc, il apporte une réflexion sur la part d'ombre des héros, les persécutions, la vengeance, les violences et les trahisons. Et on a également Robustia de Betty Picciolini ou Picciolini. Le tome 2 de Chromatopia, dont vous pouvez voir la chronique sur le site.
Imaginaire.fr, chronique faite par... Je me souviens plus, c'est qui? Rappelle-moi.
C'est moi-même.
Oh.
Donc, chez ActuSF, on a La lumière lointaine des étoiles de Laura Lam. Un thriller à huis clos au cœur de l'espace entre lutte pour la survie et lutte sociale. Et ça rappelle également notre thématique 2023 pour l'anthologie Double Jeu.
Mmh. Toujours chez ActuSF, parce que tu l'as pas mentionné, je suis désolé. Vraiment, le temps du teuse C'est important de le lire, notamment parce que c'est des légendes bretonnes, ma grande. Ça devrait te plaire. Alors moi, je trouve que le breton, c'est un peu surfait. Mais toi,
non,
ça devrait
pas
te plaire.
Du tout.
C'est Morgan of Glencoe qui a fait une novella un petit peu étoffée, qui était sortie à la base en seulement en numérique, et qui est sortie là finalement pour la rentrée littéraire en physique. C'est ça se passe dans son univers des fourmis, donc avec Lord Dali. C'est l'univers qu'elle a sorti médiéval. Non, pas médiéval fantastique, révolution industrielle fantasy, assez intéressante, sur les légendes bretonnes.
Oh. Eh bien, je vais demander à SP.
T'inquiète pas, je les ai.
Bon, vous avez terminé ?
Non, parce que j'ai les miens.
Les tiens.
Mais
de la rentrée littéraire. De ta rentrée littéraire, ok.
Le Bélial, parce que pour moi, dans toute sa vie, c'est bien. Pas le Bélial. Et c'est pas possible de ne pas parler du Bélial.
Alors vas-y.
Eh bien, il y a deux livres. Alors, il y en a un, c'est un faux livre pour la rentrée littéraire, c'est Ymir, qui est en fait une réédition corrigée, transformée. La traduction se fait par Pierre-Paul Duras-Tanty. Et en fait, c'est une épopée fantastique basée sur l'Edda poétique. L'Edda poétique, c'est le seul texte que nous ayons sur les Vikings, écrit par des Vikings au XIIe siècle. Nous allons donc suivre toute une épopée fantastique viking de l'espace.
Ah bon, de l'espace.
Et oui, viking de l'espace. Non, ce n'est pas du Space Wolf chez Warhammer 40 000, mais c'est des grands, chevelus, moustachus, bien musclés sur des drakkars.
Qui a écrit ça ? J'ai pas entendu, moi.
Je ne te l'ai pas dit parce que tu me l'as donné de tête. Moi, je sais juste le traducteur, Pierre-Paul Duras-Tanty, mais allez sur le site du Bélial. Et alors, en fait, il est déjà sorti depuis quelques jours. Le deuxième texte, et là encore, je n'ai pas l'auteur, mais c'est dans la collection Parallax. C'est neuroscience-fiction. La collection Parallax, c'est une collection faite par des scientifiques qui imaginent les possibilités du cosmos, et là c'est sur les cerveaux. Pourquoi est-ce que notre cerveau fonctionne comme ça ? Pourquoi est-ce que les animaux n'ont pas un cerveau qui fonctionne de la même manière ou qui fonctionne à peu près semblable au nôtre ? Et surtout, si on change de paradigme physique, si on change de planète, si on change de créature portant un cerveau, est-ce que ça fonctionnerait de la même manière ? Est-ce que le cerveau que nous connaissons, c'est-à-dire constitué de neurones et de synapses avec plusieurs lobes, est-ce que c'est la seule manière dont un cerveau fonctionne ? Plein de questions sur lesquelles des scientifiques, des neuroscientifiques, cherchent à y répondre en compagnie d'auteurs de science-fiction. Chez Argile Édition, enfin, je voulais vous parler de Utopia, le dernier sorti de Camille Boulanger, qui est une fiction, une épopée anarchique, une utopie anarchique.
Anarchiste.
Mais anarchiste, anarchique, les deux. La différence entre l'utopie et l'anarchie, c'est que l'anarchie, à la fin, en fait, il y a, quand Moore a fait son texte sur l'utopie, à la fin on se rendait compte que c'était un système qui ne pouvait pas marcher. Camille Boulanger s'emploie sur 600 pages à nous montrer que le système anarchique, qui est par essence utopique, est un système politique qui pourrait marcher et surtout qui pourrait être paisible. Et enfin, dernière chose dont je voulais vous parler, c'est Les Chiens de Porcelaine, de nouveau chez ActuSF. Et là, attention, j'ai les auteurs. Merci mesdames et messieurs. Les Chiens de Porcelaine, écrit à quatre mains entre Cécile Duquesne et Étienne Barillet, et la suite des Brigades du Steam, qui était sortie maintenant il y a 5-6 ans. Nous allons y retrouver les mêmes personnages. Ça se passe toujours dans les années 10, les années... Oui, c'est ça, 1910. Et nous avons donc un duo, Petit Flicaillon de Provence et Grande Flic parisienne. Sauf que celle-ci, si vous vous souvenez, à la fin des Brigades du Steam, elle avait perdu son bras, remplacée par une prothèse steampunk. Et oui, lisez, c'est mon dernier conseil.
Bon, et du coup, comme Karine n'a pas choisi de morceaux de métal, c'est moi qui l'ai fait. On va s'écouter Les Angevins de Red is Dead. Ça vient pas du film des nuls, ça, Red is Dead ?
Si, La Cité de la Peur.
Ouais. Ils seront en concert samedi dans le cadre de la finale de Chrome aux Folies Angevines. Red is Dead, donc dans l'imaginaire sur le 100.5, un groupe angevin. Un extrait de leur album Odyssée, avec une belle couve qui fait très SF d'ailleurs.
J'adore quand tu dis ça parce que je me dis qu'à la radio, c'est magnifique de voir cette couve.
Non, mais allez sur leur page Bandcamp ou allez les rencontrer. Est-ce que c'est sorti en physique? Ça, je le vois pas sur leur page Bandcamp, par contre. C'est un groupe qui avait déjà gagné une des finales de l'association Chrome. Donc, ils reviennent avec un groupe qui a gagné. Puis, allez, deux groupes en compète. C'est samedi prochain aux Folies Angevines et c'est l'entrée libre. Alors, Pierre-Marie.
Oui.
Star Wars.
Pour nous remettre de mes émotions et de ma lecture sur les normes IFRS concernant les consolidations, acquisitions et cessions des entreprises et organisations, et ben j'ai un petit plaisir coupable et je lis des livres de mon enfance, Star Wars et Warhammer 40 000. Oui, mais attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je lis des séries de mon enfance, mais ce sont des nouveaux titres.
Ah bon, quand même.
J'évolue et la littérature évolue. Mmh. Et pas forcément dans le bon sens. Là, Star Wars, j'avais trouvé des très bons trucs et j'étais revenu sur la nouvelle collection puisque toute la série des 200 titres qui étaient sortis lorsque j'avais 10 ans est passée maintenant sous le label Légende puisque le canon de l'univers étendu Star Wars a été invalidé par Disney. Et parce qu'il faut bien avoir des sous quand même, on ressort une nouvelle série à un univers étendu de Star Wars. Je l'avais approché parce que Timothy Zahn, quoi. Juste le Timothy Zahn qui avait ressorti des titres sur l'amiral Thrawn. Et puis il y en avait d'autres, alors bon, des choses qui étaient très très bien, sur des romans sur la reine Amidala qu'on voit dans trois films, mais donc on ne connaît pas tous les tenants et aboutissements de tout ce qu'elle a fait. Pas que, il y avait des choses un peu moins bien, l'escadron alphabet, où c'est un ensemble de vaisseaux, puisque les vaisseaux de la rébellion ont des lettres pour les savoir, les A-Wing, les B-Wing, les X-Wing, les Y-Wing, les V-Wing, les U-Wing, et là c'est un escadron qui récupère des vaisseaux de plein d'escadrilles qui se sont tous fait pourrir, sauf un. Autrement dit, c'est l'escadrille de pas de chance. Et là, je lis Le Collectionneur, parce que ça me paraissait bien, la couverture est pas trop mal, l'auteur je le connais pas, et il y a un casque de Stormtrooper, et je me dis, bah pourquoi pas, il coûte pas cher, puisque la collection Pocket les fait à 8€, 10€ maximum, ça me prend 2 jours, et ça me replonge en enfant. Le Collectionneur, écrit par Kevin Shinick. Et on va suivre un personnage haut en couleur avec un nom imprononçable, sinon c'est pas drôle. Car Nuke Sin. Et oui, c'est Star Wars. Mais il est pas seul, il est accompagné de Maisie Renshi. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah parce que en fait, il est très très court. Je l'ai lu pour tout vous dire en un après-midi sur un carré de plage au milieu de mes vacances. Il y a 300 pages sur un roman poche. C'est très facile. On va suivre Car qui a un souci. Il est un petit peu comme moi. Il a souvent mal au crâne et en fait, quand il touche des objets, il s'évanouit en hurlant. Alors, je trouvais ça drôle quand c'est marqué ça. Je me dis, bah c'est dans Star Wars. À quoi ça sert? Et bah souvenez-vous, l'univers étendu, on y revient, un Jedi de la guerre des clones qui a un pouvoir, quand il touche un objet, il se souvient du passé de cet objet-là. Et là, c'est Skakar, puisque là-dedans nous sommes bien après l'épisode 7, courant épisode 8, les Jedi n'existent plus depuis quasiment 40 ans. Personne ne se souvient des Jedi, personne ne se souvient de ce qu'est les Jedi, la force,
bon,
c'est
40
un
ans après.
Écart a un souci, c'est que il a sa grand-mère qui se souvient avoir vaguement entendu parler dans sa jeunesse des Jedi. Et il lui dit, tu en seras un, mon fils, mon petit-fils. C'est pas je suis ton père, mais on n'en est pas loin.
Écart,
du haut de ses 17 ans, est persuadé qu'il sera un Jedi et qu'il faut qu'il arrive à utiliser ses pouvoirs. Puisqu'il n'y a personne autour de lui pour lui apprendre. Et donc, il va commencer à acheter des objets, à faire collection des objets, d'objets qui ont soit appartenu à l'Ancienne République, soit qui ont appartenu au début de la Nouvelle République. Donc, la bataille de Yavin, 20 ans après la guerre des clones. Et à chaque fois qu'il trouve un objet qui a vécu à cette période-là, bah, il s'évanouit en hurlant. Alors, moi, ça me fait rire. Et on apprend qu'au fil de ces pages, qu'il va apprendre à utiliser ce pouvoir-là. Mais il vient d'une famille ouvrière. Il n'a pas de sous. Et c'est là que vient ce deuxième personnage, Maisie, qui est la fille d'un notable du Nouvel Ordre. Donc, il y a du fric et un vaisseau spatial. Ils vont pouvoir fuguer, passer de planète en planète, trouver des objets et remonter toute l'histoire. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'un plaisir coupable passable? C'est parce qu'en fait, ce livre n'apporte rien à l'univers étendu, à part ces deux personnages-là. Ce n'est qu'un prétexte pour revivre ce que nous avons vu dans les films. Le personnage va toucher des objets qui existent dans les films que vous voyez. un bras de C3PO, un bout de sabre laser d'un inquisiteur, un morceau de vaisseau spatial d'un chasseur Jedi.
C'est du fan service alors.
C'est du fan service sur 300 pages où on va revivre les six premiers films et puis se rappeler quand même. C'est du fan service bien élaboré puisqu'il y a quand même des références à de jeux vidéo. C'est drôle. C'est bien écrit, c'est attendrissant. Le gamin a 17 ans, autrement dit, il va pas changer la galaxie. C'est forcément simpliste. Il rencontre des pirates qui ont un bon cœur, même si ce sont des gros braconniers qui passent leur temps à buter femmes et enfants quand ils peuvent gagner une dizaine de crédits. Mais lui, non, on va le laisser vivre. C'est pas très grave. Il va rencontrer des militaires qui n'ont rien à faire d'un voleur de vaisseau spatial. Faut pas déconner, c'est quand même des fonctionnaires. On va pas trop leur en demander. Mes excuses à nos auditeurs fonctionnaires. Je le suis, moi aussi, j'ai le droit. Non, c'est un livre que j'ai apprécié, donc j'ai apprécié la lecture, mais effectivement, ce n'est pas un incontournable, sauf si vous avez du temps et que vous êtes fan de Star Wars. Et je vous laisse en compagnie d'Imagine Dragon, le titre Shark.
Sur le 100.5.
In the rocky waters, hide away your sons and daughters, eat you alive. Levels, better put your head on swivels, dancing with the buried devil, butter tonight.
You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, really your friends. But when it comes to the end, to the end,
you're just the same as them, same as them.
So let it go.
Drowning, you're seeing doubles. Don't you let them see your struggles, hiding your tears. Crisis, take advantage of your niceness. Cut you up in even slices, prey on your fear.
You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, really your friends. But when it comes to the end, to the end,
you're just the same as them, same as them.
Recipe. I wonder if my day is coming. Blame it on the entropy. My blood is pumping. I can see the end is right in front of me. Don't take it from me. I could be everything. Everything.
Parce que j'ai pas envie qu'il pleuve.
Oh, c'est on dommage. Je crois que de toute façon, ouais, c'est prévu. Hein. Mais donc tu peux chanter.
Pas la peine d'accélérer le mouvement.
L'agenda, vous aviez des choses à dire. Alors, on vient de remettre le prix Rognéné.
Non, enfin, on ne vient pas. Ça fait quasiment 15 jours.
Ah ouais, même.
Non, 20 jours. Le prix Rognéné s'est réuni à Bergerac puisque chaque année, la convention nationale change. Et là, c'était à Bergerac.
Convention nationale de science-fiction.
Exactement. Et ça a été le moment de remettre le prix Rognéné pour. Bénédicte Coudière et une sa nouvelle, et Katie Stewart et sa nouvelle.
Bénédicte, donc, est une nouvelle qu'elle vendait, c'est sorti aux éditions Armada, je crois.
C'est enfin, ça,
petit
exactement.
Format fascicule, on pourrait dire.
L'Évangile selon Myriam pour Katie Stewart et Mécanique en apesanteur de voilà. Bénédicte Coudière.
Ouais, qu'elle vendait au Salon Imaginaire.
Exactement.
Certains d'entre vous l'ont acheté.
Moi, je l'avais acheté.
Et l'agenda, bah alors je disais que bon, il y a une soirée chrome samedi, on espère qu'on y passera quand même, on aimerait bien avoir un stand aussi là-bas, enfin bon, on verra. Et c'est des accroche-cœurs aussi, quand même. Bon, on n'a pas de spectacle de science-fiction cette année, mais...
Et puis, trois événements à laquelle participe l'association. Et 1er oui. octobre, à la bibliothèque de... Avrier.
Très lasé.
Presque, à chaque fois.
Ça s'appelle la médiathèque Hervé Bazin.
À chaque fois. Donc, la médiathèque de Très
lasé,
nous allons animer des tables de jeux de rôle.
Justin Wars, justement.
Pour faire écho avec notamment le Dice Hard. Mm. Deux tables rondes qui seront animées. Une par
table
Romain
de jeu,
pour,
table de jeu, ouais.
Pour les risques tout.
Des tables rondes. Oui, risques tout. J'en ai pas mal parlé dans cette
émission. Du Star Wars, si jamais vous voulez poutrer un peu l'Empire. Rejoignez-moi.
Donc voilà, vous pouvez réserver sur le site donc, de la médiathèque Hervé Bazin.
Et ça sera l'après-midi pour le samedi 1er octobre.
À partir de 14h30.
Jeudi 13 octobre, la médiathèque de Toussaint, et là je ne me plante pas, c'est à Angers même, ouais. Il y a la rentrée littéraire et nous y participons, sachant que ce sont des présentations courtes. Il va y avoir une dizaine de présentations pour les nouveautés et ça ne s'arrêtera pas qu'à l'imaginaire. Tous les genres seront représentés. Et enfin, il va y avoir les Utopiales. Difficile de parler d'autre chose. Sur le thème des limites, fin octobre, début novembre, nous y serons pour faire des interviews, pour représenter l'association, mais aussi pour écouter la centaine d'intervenants, les 200 intervenants qui vont pouvoir parler d'un aspect scientifique et d'un aspect littéraire sur les limites.
Et puis on fera une petite soirée un peu débrief aussi à la médiathèque Toussaint au mois de décembre où on vous présentera notamment les ouvrages qui étaient en compétition pour les prix des Utopiales. On termine là. Allez, je vous mets quelques secondes de Haiti, les Rennais qui vont faire danser la place du ralliement samedi soir aux Accroche-Cœurs. On se retrouve dans deux semaines dans Imaginaire sur le 101.5. Bye bye.
Radio G, découvrez un artiste de l'équipe Espoir du Shabada, la salle des musiques actuelles à Angers.